Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'ambassadeur indien a rencontré le sultan Hamengkubuwono X pour discuter de la coopération culturelle et économique. Des élèves d'une école indonésienne de Tokyo participent à une formation sur l'atténuation des catastrophes. L'ambassadeur américain optimise le partenariat de Prabowo avec le futur président américain. Chers amis, nous présentons maintenant le journal incomplet. L'ambassadeur indien en Indonésie, Sandeep Chakraforty, a rencontré le gouverneur de la région spéciale de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, au complexe Kepatihan Yogyakarta, pour discuter d'une coopération accrue dans les domaines culturel et économique. Le chef du département de l'investissement et des services intégrés à guichet unique de Yogyakarta, M. Agus Priyono, après avoir accompagné Sri Sultan, a déclaré que le gouverneur avait fait savoir qu'il était approprié que l'Indonésie et l'Inde, qui ont une histoire longue et assez proche, se consacrent à des activités ayant un impact plus significatif sur les deux parties. Agus a révélé que les relations qui existent entre l'Indonésie et l'Inde durent depuis l'époque de la lutte de l'Indonésie pour l'indépendance, où l'Inde a été l'un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de la République d'Indonésie. Selon Agus, l'ambassadeur indien en Indonésie a salué l'opportunité de coopération. Un certain nombre d'élèves de l'école indonésienne de Tokyo ont participé avec enthousiasme à une formation sur l'atténuation des catastrophes organisée par le gouvernement japonais vendredi 25 octobre. La formation est en collaboration avec le gouvernement de la ville de Meguro, qui est entièrement soutenu par l'ambassade d'Indonésie à Tokyo. Le coordinateur de la fonction d'information socio-culturelle de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo, M. Muhammad Al-Aula, exprimait sa gratitude à la police et au pompiers de Meguro pour avoir impliqué les étudiants de l'école indonésienne de Tokyo dans cette activité de formation sur l'atténuation des catastrophes. Al-Aula, dans une déclaration officielle de l'ambassade d'Indonésie à Tokyo, a souligné que cette formation était importante que tout le monde soit au courant, notamment en termes de réduction des victimes des catastrophes qui se produisent. Était également présent le directeur de l'école indonésienne de Tokyo, Ari Drianingsih, et la présidente du comité scolaire, Mary Astrid Idriasari, l'inspecteur en chef de la section de circulation du poste de police de Meguro, Tanaka Junichiro, était également présent. Aula espère que ce type de formation pourra être fait régulièrement chaque année. L'ambassade d'Indonésie à Tokyo est prête à collaborer avec les parties concernées au Japon. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales garantit que le processus de l'autorisation dans le secteur du pétrole, du gaz, des minéraux et du charbon ne prend pas plus d'un an. Le Bureau indonésien du commerce et de l'économie à Taipei inaugure le pavillon indonésien au Kaohsiung Food Show. L'agence des Nations Unies pour les réfugiés affirme que la crise des réfugiés au Liban s'aggrave. Cher Jamil nous présente maintenant le journal incomplet. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales assure que le processus d'octroi de licences commerciales pour les secteurs nationaux du pétrole et du gaz et des minéraux, et aussi du charbon, ne dépasse pas d'un an. Le chef du bureau des communications, des services publics et de la coopération du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales, M. Agus Cahyono Adi, a déclaré dans un communiqué à Jakarta vendredi que cela faisait suite à la direction du ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Bahlil Lahadalia, qui souhaitait que la réglementation soit simplifiée d'ici 100 jours. Il a déclaré que la simplification des réglementations vise non seulement à accélérer les investissements, mais aussi à améliorer la gouvernance dans le secteur énergétique dans son ensemble. Grâce à ses efforts, selon lui, le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales espère créer un écosystème d'affaires plus dynamique et accroître la contribution du secteur énergétique à la croissance économique nationale. Le Bureau indonésien du commerce et de l'économie à Taipei a inauguré le pavillon indonésien à l'exposition Kaohsiung Food Show 2024 à Taïwan. Selon le communiqué de presse de IETO vendredi, le pavillon a été inauguré par le directeur ministère général du développement des exportations nationales, ministère du commerce, Mardiana Listiawati. Dans son discours, Mardiana a souligné l'importance de Kaohsiung Food Show 2024 en tant qu'événement promotionnel stratégique pour renforcer et augmenter les exportations des produits alimentaires et de boissons indonésiens vers Taïwan. Le chef du Bureau indonésien du commerce et de l'économie Taipei, Arief Sulistyo, a déclaré que son parti continue de promouvoir la nourriture et les boissons indonésiennes à Taïwan. Il estime que la participation du Bureau indonésien du commerce et de l'économie Taipei à l'exposition était considérée comme importante pour que l'Indonésie puisse pénétrer le marché dans la région sud de Taïwan. Le Kaohsiung Food Show est la plus grande exposition d'aliments et de boissons à Taïwan, qui se tiendra cette année du 24 au 27 octobre 2024. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ou UNHCR, prévient que la crise des réfugiés au Liban s'aggrave alors que des dizaines de milliers de personnes fuient au milieu du conflit en cours. Rula Amin, conseillère principale en communication de UNHCR, a déclaré vendredi, lors d'un point de presse de l'ONU à Genève, que les frappes aériennes au poste frontière entre le Liban et la Syrie bloquent les voies de fuite pour les personnes en fuite. Amin a souligné qu'il avait également vu davantage de frappes aériennes israéliennes aux deux postes frontaliers entre le Liban et la Syrie, ce qui bloquait et mettait en danger la route principale que les gens empruntent pour échapper au conflit au Liban et passer en Syrie. La situation s'est étendue aux pays voisins avec plus de 430 000 personnes traversant la frontière du Liban vers la Syrie, dont des Syriens, Libanais et des citoyens d'autres pays comme les Irakiens et les Palestiniens. Amin a également souligné que de nombreuses personnes manquent d'abri, de nourriture et d'autres besoins fondamentaux. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Pancasila, bangsa negara. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'accueil diplomatique. Cette fois, nous allons vous présenter l'ambassadeur Lutfi encourage l'augmentation des exportations de produits indonésiens vers le marché égyptien. L'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, M. Lutfi Rauf, accompagné de l'attaché commercial de l'ambassade de la République d'Indonésie au Caire, M. Syahran Bakti, a visité le siège social de Société Anonyme Perusahaan Perdagangan Indonesia, AGRA, PPI, Jakarta Central, afin d'augmenter les exportations de produits indonésiens vers l'Égypte, lundi 21 octobre. Dans un communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie au Caire, mercredi 23 octobre, l'ambassadeur Lutfi a exprimé son espoir que les sociétés commerciales indonésiennes puissent soutenir l'augmentation de la valeur des exportations indonésiennes vers l'Égypte par une collaboration multipartite et transfrontalière. L'ambassadeur a déclaré que l'Indonésie et l'Égypte ont signé un protocole d'accord pour établir un comité commercial conjoint, un forum créé pour renforcer les relations économiques entre les deux pays. Il espère qu'à travers ce forum, on discutera des efforts visant à améliorer les relations commerciales entre les deux pays, la discussion d'un accord de libre-échange entre les deux pays et la coopération dans un système de l'échange commercial inter-entreprise. L'attaché commercial de l'ambassade d'Indonésie au Caire a déclaré que les principaux produits d'exportation de l'Indonésie vers l'Égypte comprennent l'huile de palme et ses dérivés, le café, la noix de coco et ses produits transformés, la poudre de cacao, les épices, les pneus, les véhicules et les pièces détachées de véhicules et les pesticides. Pendant ce temps, les principaux produits d'importation indonésiens en provenance d'Égypte, à savoir les engrais minéraux phosphatés, les dattes, les engrais minéraux, les gouttes résultant de l'extraction et le phosphate de calcium naturel. La visite de la délégation de l'ambassade d'Indonésie au Caire a été accueillie par le précédent directeur de Société Anonyme, Société Commerciale Indonésienne, S. Hernowo. À cette occasion, Hernowo a bien apprécié les efforts visant à diversifier les exportations de produits indonésiens de qualité supérieure vers le marché égyptien. Il a ajouté que jusqu'à présent, son parti avait continuellement exporté des produits en grains de café vers le marché égyptien. Hernowo espère pouvoir exporter d'autres produits de qualité supérieure afin de pouvoir répondre aux demandes des acheteurs égyptiens, notamment dans le domaine des produits alimentaires, des produits agricoles et des plantations. Chers amis, c'était la rubrique L'accueil diplomatique de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui. Je commence avec les événements du 26 octobre 1979, lorsque le président sud-coréen Park Chung-hee a été assassiné. Il est né à Gumsi, Gyeongsang du Nord, Japon-Corée du Sud rustique, le 30 septembre 1917. Il est devenu président de la République de Corée entre 1961 et 1979. On lui attribue la modernisation de la Corée du Sud grâce à une industrialisation orientée vers l'exportation, mais il a également été accusé de violation des droits de l'homme au cours de la période supplémentaire de sa présidence. Les 18 années de leadership par Chung-hee se sont terminées entre les mains de son meilleur ami, le chef de l'agence de renseignement sud-coréenne, Kim Dae-kyu. Citant le Korean Time du 26 octobre 1979, Park Chung-hee a organisé un dîner restreint auquel ont participé un certain nombre de responsables importants au restaurant KCIA du complexe de la Maison Bleue. Le dîner est devenu tendu, ce qui a entraîné la fusillade de Park Chung-hee. Kim Dae-kyu a tiré sur Park Chung-hee à la poitrine et derrière l'oreille. 4 heures après la mort, Kim Dae-kyu, chef de la KCIA et ami proche du président Park Chung-hee, a été arrêté par les forces de sécurité. Le 26 octobre 2021, président George W. Bush signé le USA Patriot Act. Grâce à cette loi, les États-Unis ont pu mener des actions de l'application de la loi anti-terrorisme. Il s'agit d'une forme de réponse à la tragédie du 11 septembre 2011. Le 26 octobre 2010, l'éruption du Mont Merapi dans la province de Yogyakarta en Indonésie. Selon le rapport du Centre de recherche et de développement sur la technologie des catastrophes géologiques, l'éruption s'est produite vers 17h de l'Indonésie occidentale. Il y a eu au moins 3 éruptions. L'éruption s'est accompagnée de la libération de nuages chauds atteignant 1,5 m de hauteur et se sont dirigés vers Kaliadem, Kepuharjo. Cette éruption a éjecté des matériaux volcaniques à environ 1,5 km de hauteur. L'activité sismique a débuté fin septembre 2010 et a provoqué une éruption volcanique le mardi 26 octobre 2010 qui a entraîné la mort d'au moins 386 personnes, y compris le gardien du Mont Merapi, Mbah Marijan. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Aku masih Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique Mon Indonésie, intitulée L'engagement du ministère des Affaires agraires et de l'aménagement du territoire pour réaliser la réforme agraire et la sécurité alimentaire. Le ministère des Affaires agraires et de l'aménagement du territoire, à travers la Direction générale de la gestion agraire, a déclaré son engagement à exécuter le mandat du président Prabowo Subianto concernant l'autosuffisance alimentaire. C'est ce qu'a déclaré vendredi la directrice générale de la gestion agraire, Julia Jaya Nirmawati, à Jakarta, 25 octobre. Elle a déclaré que l'Indonésie pourrait travailler ensemble pour réaliser la justice et la prospérité via le programme de réforme agraire. Elle a déclaré que le président a également souligné que l'Indonésie devait maintenir la sécurité alimentaire, qui est étroitement liée aux fonctions de la Direction générale de la gestion agraire. Julia Jaya a également expliqué que le président Prabowo a souligné l'importance d'atteindre immédiatement l'autosuffisance alimentaire avec pour l'objectif d'ajouter 4 millions d'hectares de superficie récoltée en 2029. Le programme de réforme agraire qui a été déployé était une partie importante du cadre pour atteindre cet objectif. Elle a déclaré que l'un des principaux objectifs de la réforme agraire est de surmonter les inégalités en matière de contrôle et de propriété des terres. Cela contribue directement à accroître la sécurité alimentaire et la souveraineté. Dans la loi numéro 59 de 2024 concernant le plan national de développement à long terme 2025-2045, la réforme agraire est un programme stratégique à long terme qui a pour mandat de se poursuivre. Cela comprend la redistribution des terres à travers l'objet foncier de la réforme agraire et la certification foncière, la gestion des actifs et l'autonomisation des communautés par l'accès à la terre font partie intégrante de cette étape. Julia Jaya a également rappelé l'importance de renforcer la synergie entre les niveaux, tant au sein du ministère qu'avec des parties externes. La collaboration avec des ministères et des institutions interindustrielles tels que le ministère des Forêts, le ministère de la Transmigration, le ministère des Villages et le ministère de Micro, Petites et Moyennes Entreprises est la clé du succès dans l'accélération du programme de réforme agraire. Pour cette raison, il espère qu'à l'avenir, elle pourra inviter les ministères concernés à se concentrer davantage sur l'accélération de cette tâche commune afin que la communauté puisse ressentir l'impact des bénéfices croissants du programme de réforme agraire. Julia Jaya a souligné que l'accélération de la mise en œuvre de la réforme agraire vise à apporter de plus grands bénéfices à la société, notamment en termes de justice sociale et de bien-être. Grâce à une collaboration efficace, on espère que ce programme pourra avoir un réel impact sur la vie des gens, notamment concernant la sécurité alimentaire nationale. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Terkibas oleh angin, datang berlari sendirian di tanjakan yang biasa itu. Pada momen pertemuan saat kita saling berpapasan itu, dadaku ini terasa sesak, jantung pun seperti akan berhenti. Terpesona olehnya yang namanya. Oh,
Charmi, merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter la place du lever du soleil à Bali. La ville de Denpasar possède de nombreuses plages, dont la place Matahari Terbit, une place située dans le village de Sanur Kau à Denpasar, non loin de la place de Sanur qui est déjà célèbre. La place de Matahari Terbit n'a pas de sable comme les autres places. Lorsque vous entrez pour la première fois dans la rue Matahari Terbit, les touristes seront accueillis par des vagues s'écrasant contre le gros rocher empilé sur le rivage. D'habitude, les touristes commencent à arriver à partir de 5h pour assister à la beauté du lever du soleil. Les touristes immortalisent leurs activités sur la place Matahari Terbit à Sanur et les partagent via les réseaux sociaux. Comme son nom l'indique, cette place est réputée pour être un endroit idéal pour observer le lever du soleil. La vue du soleil apparaissant à l'horizon de la mer est un moment fascinant qui mérite d'être apprécié. Surtout lorsque le soleil commence à se lever, on peut voir la silhouette du Mont Agung et les bateaux ancrés sur la plage, ainsi que les activités trépidantes des pêcheurs, rendant le panorama encore plus beau. En plus de profiter de la beauté de la place de Matahari Terbit tout en recherchant des photos, les touristes peuvent également louer un canoë et explorer les eaux côtières. Cette zone de plage est aussi très adaptée aux enfants parce que les vagues ne sont pas trop grosses, ce qui permet aux touristes de nager ou simplement de jouer dans le sable de la plage. L'atmosphère de la plage est calme et pas trop venteuse, ce qui la rend idéale pour se promener tranquillement ou simplement s'asseoir et profiter de la vue. L'atmosphère nocturne de cette plage offre également son propre charme, avec le ciel qui change lentement de couleur au coucher du soleil, créant une vue exotique. La plage de Matahari Terbit située à Sanur Kaja, dans le sud de Denpasar, dans la ville de Denpasar. Est très facile d'accès parce qu'elle peut être atteinte en utilisant des véhicules à 2 ou 4 roues. Pour entrer dans cette zone de plage, les touristes n'ont pas à payer de ticket d'entrée. Ils doivent payer un ticket de stationnement pour véhicule. Chers amis, c'est un magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Sadarku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buatku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. laut samudra. Kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang. Oh penjaga hatiku. Oh, karena bersamamu semua terasa indah. Bunga gulana hatiku telah hancur sirna. Janjiku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter le Festival des écrivains et lecteurs de Bout présente 336 conférenciers de tous les pays. La 21e édition du Festival des écrivains et lecteurs de Bout, l'un des plus grands festivals littéraires annuels d'Asie du Sud-Est, se tiendra à nouveau du 23 au 27 octobre 2024 avec 336 intervenants de tout le secteur. Le festival est l'un des festivals littéraires les plus prestigieux d'Asie du Sud-Est, se déroulant chaque année à Ubud, Bali. Ce festival n'est pas seulement un événement pour les écrivains, mais aussi pour les lecteurs, les artistes et les amateurs de littérature du monde entier. Au total, 181 écrivains indonésiens feront équipe avec 336 intervenants venus de 20 autres pays. Ce festival est organisé en 266 programmes dans 70 lieux d'activité. Le comité vise plus de 10 000 personnes pour assister au festival. Le thème évoqué par UWRF cette année est Satyam Vada Dharman Kara, dite la vérité, pratiquée et gentillesse, s'inspirant de l'épopée de Mahabharata, liée au concept de la philosophie hindou-balinaise Tri-Pramana. Cette philosophie met l'accent sur l'importance de pratiquer les valeurs de vérité et de bonté à travers le bayou. C'est la capacité de vivre, le sabda, c'est la capacité de parler, et l'idée, la capacité de penser. Parmi les conférenciers indonésiens de cette année figurait le journaliste Andreas Harsono, l'écrivain Diki Senda de Nusa Tenggara Est, l'écrivain et activiste Ayu Utami, les réalisateurs de Lola Amaria et Susi Lotur, la personnalité de la communauté et le frère cadet de célèbre écrivain Pramudia Anantatur. Concernant les questions environnementales, Amitav Ghosh, un écrivain indien, discutera des relations entre le colonialisme et le changement climatique. En dehors de cela, des personnalités balinaises soucieuses des questions environnementales participeront à des événements parallèles pour s'impliquer dans le festival. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
sambil pelukan rasa. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Menari-nari
romantis
sambil merayu, lupakan ada waktu. Oh, angin berbunyi nada seperti lagu cinta. Ku tulis tentangmu. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Kita bikin romantis, bikin paling romantis. Bergandeng tangan, bermain angan yang syahdu. Kita bikin romantis, yang paling romantis.
Sambil gandeng tangan, hati pelukan.
Kita bikin romantis,
sambil gandeng tangan. Sambil pelukan rasa.
Voice of Indonesia.
Sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Sepertinya kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani aku. Yang kalau ditanya apa bentuk cinta, aku juga bingung jawabnya, gak tahu gimana. Menyimpan banyak tanya tentang cinta, aku bingung carinya di mana. Tanya ke siapa. Lalu datang kau yang unik, kau temani aku jalan pelan berdampingan, tidak buru-buru gandeng tangan. Aku pernah kehilangan ketakutan
kirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncheon, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La voix de l'Indonésie au monde.
Jangan lupa
Voice of Indonesia.